premier temps d'une nouvelle série de La Fabrique de l'Histoire jusqu'à jeudi, une série titrée « La guerre et ses raisons ». Donc, la guerre et ses raisons. Demain, nous recevrons le grand historien du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, Yann Kershaw, pour un nouveau livre. Et mercredi, nous accueillerons un dialogue entre Timothy Snyder et Christian Ingrao sur les raisons qui poussèrent les nazis à l'est de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Jeudi, nous recevrons un autre grand historien du nazisme et de l'Allemagne nazie, à savoir Saul Friedlander. Et aujourd'hui, eh bien, c'est d'une guerre au loin, la guerre des Français dans une Indochine qui n'était pas encore française, dont nous allons parler avec l'historien Sylvain Venner, auteur récent, puisque le livre vient de sortir, d'un ouvrage qui vient de recevoir le prix Augustin Thierry des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Et ce titre, c'est justement « La guerre au loin ». Puis, à la fin de l'émission, l'historien Jean-Yves Potel nous dira quel était le rapport à l'histoire du cinéaste Andrei Vajda, dont on a appris la disparition cette nuit. Mais tout de suite, un nouvel épisode de « La fabrique de la guerre froide », concocté par Anaïs Quin et Françoise Camard.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, já napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které všichni přijde...
Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС...
La guerre de Corée se poursuit. Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Téhéran...
Acting therefore in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere...
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide. Dans son récit autobiographique « Les enfants modèles », Paul Thorez raconte ses vacances au bord de la mer Noire au camp d'Artek. Ses parents, Maurice Thorez et Jeannette Vermersch, qui incarnent le communisme français, l'envoient découvrir le pays de l'avenir radieux en Crimée, où se rêve, dans une mise en scène soigneusement mise au point, une société idéale où les enfants du gratin communiste international jouent les figurants. Le moniteur ou la monitrice de service annonçait les activités de la journée et adressait au rassemblement une petite allocution de circonstance. Toutes les dates du calendrier correspondant inévitablement à un événement historique ou à une fête corporative qu'il convenait de remémorer. Aujourd'hui, les enfants, c'est la journée des métallurgistes, des viticulteurs, des artistes de cirque. Suivait un laïus sur les travailleurs émérites et sur leur participation enthousiaste à l'édification d'un monde nouveau. Enfin, il lançait le mot d'ordre « Jeunes léninistes, soyez prêts au combat pour la cause de Lénine-Staline. » Et l'Assemblée répondait d'une seule voix « Toujours prêts !» en faisant le salut des pionniers, l'avant-bras droit replié devant le visage, le coude à l'horizontale de l'épaule, tandis que dans un roulement de tambour, le drapeau rouge montait au ciel.
Paul Thorez, c'est le troisième fils de Maurice Thorez, qui a eu quatre fils. C'est le deuxième fils de ce couple, puisque le premier fils était issu d'un premier mariage de Maurice Thorez.
Génie raflique.
C'est un petit peu le vilain petit canard de la famille Thorez, puisque finalement c'est celui qui ne va pas adhérer complètement au discours communiste, et en tout cas qui va, notamment autour de ses souvenirs sur ses vacances à Artek, prendre une certaine distance et faire preuve d'un esprit critique à l'égard de l'éducation, parce que c'est aussi une éducation par le biais de ses camps vacances qu'il a reçus à Artek. Artek, c'est la colonie de vacances des pionniers. C'est ce grand mouvement pour les jeunesses communistes, un peu le modèle du scoutisme, mais justement ce que montre bien Paul Thorez, c'est que c'est un modèle confortable du scoutisme, puisque dans ce camp de vacances à Artek, il y a énormément de domestiques, des armées de cuisiniers, de jardiniers, de blanchisseuses. Pour s'occuper de ses enfants, ils sont très privilégiés, très encadrés. À la fois, ils ont l'impression d'être livrés à eux-mêmes, mais en même temps, ils sont très très encadré, très surveillé. Alors Paul Torres nous fournit nombre d'exemples. Ils sont extrêmement bien nourris dans une URSS qui est en proie aux pénuries. Il raconte des repas plantureux et puis l'importance fondamentale que les cadres du camp donnent au fait que les enfants prennent du poids pendant leurs vacances. Il faut absolument que les enfants aient grossi pendant les vacances. C'est preuve de la prospérité de l'Union soviétique. Ils sont très encadrés pour les bains de mer. Alors Artek est en Crimée, c'est évidemment, ça a été choisi en raison du climat un petit peu exceptionnel qu'offre la Crimée sur cette zone géographique, à la fois maritime, en zone de montagne, ce qu'on appelle la montagne de l'ours, juste à côté, où les enfants vont faire des randonnées. Mais Paul Torres raconte bien que pendant les randonnées, lorsqu'ils arrivent au camp, ils n'ont évidemment pas porté la tente. De toute façon, le camp a été monté, tout a été installé à l'avance par ce qu'il appelle des sherpas invisibles qui ont tout prévu, tout organisé et qui assurent le confort de ces enfants venus du monde entier.
Quel type de critique on pourrait-il lire de la part de Paul Torres de ce système communiste ?
Alors, les critiques apparaissent de différentes façons. D'abord, par le contraste qu'il décrit entre l'esprit du communisme, c'est-à-dire l'égalitarisme, la collectivité, et justement le fait qu'ils sont très privilégiés, très choyés, que les enfants des dirigeants vivent finalement un autre communisme, une autre réalité que celle qui est le quotidien des soviétiques de l'époque. Et puis, les critiques apparaissent aussi par la description de certaines pratiques. Il décrit les élections, le processus démocratique. Et il montre bien que même si à l'époque, il ne s'en rend pas compte et qu'il a le sentiment de participer à un processus démocratique, avec le recul, il se rend bien compte que les élus étaient forcément les candidats et qu'en réalité, comme il y avait un candidat par poste, le processus démocratique était somme toute très limité.
Il s'agit des élections au sein du groupe de pionniers lui-même.
Voilà, les élections au sein du groupe de pionniers lui-même reproduisent finalement la démocratie à la soviétique, où chacun vote avec enthousiasme, persuadé de participer à l'élan démocratique, mais avec un choix somme toute très limité. Les critiques vont aussi dans la description, puisque finalement tout le système soviétique se reproduit à échelle réduite, à l'échelle des enfants dans ce camp de pionniers. Les séances d'autocritique, par exemple, lorsqu'un enfant a fait une bêtise, il doit se soumettre à cette forme d'autocritique en public, avec le blâme collectif qui va lui être attribué, et puis ce qui peut, les punitions, alors tout remis à l'échelle d'enfant, mais finalement, il voit à son échelle, celle d'un enfant, d'une colonie de vacances, tout le système soviétique avec ce qui fonctionne, avec ce qui fonctionne pas, avec parfois ses caricatures. Il raconte comment après l'éviction de Beria, donc dans les querelles politiques des grands, de fait, mais comment il voit les moniteurs du camp s'empresser d'aller gratter les photos où apparaissait Beria pour le faire disparaître de toutes les photos. Et il fait le lien avec ce qu'il voit lui en France. Par exemple, des montages photos faits dans l'humanité autour de son père. Donc il se rend bien compte finalement que ce sont des pratiques courantes qu'il ne remet pas en cause à l'époque parce qu'elles lui semblent naturelles, mais qu'avec le recul, il perçoit bien comme de la manipulation.
Voilà un nouvel épisode de La Fabrique de la Guerre Froide, préparé et réalisé par Anaïs Quin et Françoise Camard. Vous pouvez évidemment le télécharger séparément du reste de l'émission. C'était au temps du Tonkin, quand Beijing s'écrivait Pékin et Fuzhou, Fucheu. L'époque était peut-être plus simple qu'aujourd'hui, moins inquiète. Alors on parlait de l'Extrême-Orient et on savait de quoi on parlait, de cet immense espace peuplé d'une infinité d'hommes jaunes qui se trouvaient au-delà des Indes anglaises et qu'on pouvait atteindre depuis Brest ou Toulon en passant par le canal de Suez. Cependant, peu de gens s'y rendaient, le plus souvent des marins, des marchands, des soldats et des missionnaires. Depuis longtemps, on se plaignait que l'Europe n'envoie au loin que ces sortes de voyageurs qui ne savent pas observer. Il fallait que les philosophes se déplacent, avait dit Jean-Jacques Rousseau, les expéditions lointaines en seraient plus fécondes. Au temps de Tuduc, empereur d'Annam, qu'il ignorait, beaucoup d'Européens répétaient ce conseil. Des philosophes voyageaient et des voyageurs philosophaient. Entre eux, ils s'appelaient anthropologues. C'étaient des gens de science et des gens de bien. Ils recensaient les coutumes et mesuraient les crânes. Mais peu d'entre eux se trouvait en Extrême-Orient. Bonjour Sylvain Venner.
Bonjour Emmanuel Laurentin.
Merci d'être ici pour le livre dont je viens de lire le premier chapitre, puisque c'est un chapitre court, mais qui d'une certaine façon, ce premier chapitre est une sorte de manifeste très court, puisqu'on verra se développer tout ce qu'il y a dans ce chapitre plus tard. Ce livre s'appelle Une guerre au loin, il vient de recevoir le prix Augustin Thierry des rendez-vous de l'histoire de Blois, et il est sous-titré Annam 1883, il paraît aux éditions des Belles Lettres. Et il nous raconte un épisode microscopique, a priori, de l'histoire de la conquête coloniale de la France, à savoir l'histoire d'une série d'articles, écrite, cette série d'articles, par l'écrivain qui commence à être célèbre à ce moment-là, Pierre Loti, au moment de cette conquête de l'Annam en 1883. Série d'articles qui va déclencher une sorte de polémique et qui est au cœur de cette guerre au loin, Sylvain Venner.
Oui, c'est tout à fait anecdotique. Quand on pense à 1883, on pourrait penser à des événements plus importants. On pourrait penser à la mort de Marx, à la naissance de Keynes, à la création du mérite agricole, par exemple. Mais là, je prends un événement qui n'en est pas un pour deux raisons. La première, c'est que on l'a à peu près oublié.
Y compris celui qui est l'auteur, parce que Pierre Loti est encore lu aujourd'hui.
Mais... Et la seconde, c'est que son principal responsable a tout fait pour qu'on l'oublie. Puisque après sa série d'articles dans Le Figaro à l'automne 1883, trois articles sur 12 qui étaient prévus et qui font un scandale tel qu'au troisième article, on en interrompt la publication. Au motif, dit le ministère de la Guerre, que Pierre Loti aurait déconsidéré la marine française, aurait joué contre son pays, en quelque sorte, Loti, par la suite, republie son texte, à plusieurs reprises d'ailleurs, et à chaque fois en enlevant systématiquement tous les passages qui avaient été pointés par le ministère de la Guerre comme des passages inconvenants.
Alors il faut dire que Pierre Loti est un militaire de carrière, un marin, qu'il est en Annam en 1883, au moment où se pratique la conquête de cette partie du monde par les troupes françaises. En 1883, l'empereur Tuduc, dont je donnais le nom tout à l'heure, donc est sorti du jeu. La France veut récupérer ce morceau d'Asie à son profit et envoie une escadre militaire, en prenant prétexte d'une lutte contre les pirates, envoie une escadre militaire pour pouvoir bombarder les forts de Hué. Et c'est cet épisode que raconte Pierre Loti dans un texte, plusieurs textes pour Le Figaro, alors qu'il est sur le bateau et pas sur le terrain, et qu'il voit tout ça de loin.
Oui, en fait, nous on l'appelle Pierre Loti, mais du point de vue de la marine, il s'appelle Julien Viau, il est lieutenant de vaisseau, et ne participe pas au combat auquel participent tout de même 1000 hommes. C'est une belle opération militaire. Il y a l'escadre de l'amiral Courbet, c'est 7 navires modernes, le navire Bayard sur lequel se trouve l'amiral Courbet lui-même, enfin le contre-amiral à l'époque Courbet, et un des fleurons de la flotte française. Ces 1000 hommes débarquent, prennent les forts de Hué, c'est-à-dire font tomber en réalité la ville de Hué, c'est-à-dire en réalité font tomber l'Annam dans l'escarcelle française. L'Annam rejoint la Cochinchine qui avait été conquise à l'époque de Napoléon III. Engage les opérations qui vont devenir ensuite la conquête du Tonkin en 1884 et 1885. Et tout ça va créer finalement
l'Indochine
quelques années plus tard. Sauf qu'en 1883, on ne peut pas imaginer ce que va devenir par la suite l'Indochine française. Pierre Loti, moins que quiconque, puisque le moins qu'on puisse dire de Pierre Loti, c'est qu'il n'a pas la tête très politique. Ce qui l'intéresse quand il arrive là-bas, c'est qu'il se retrouve aux endroits même où son propre frère, qui avait été chirurgien de marine, était mort en ayant attrapé la dysenterie sur l'île de Poulo-Condor au moment des premières conquêtes de la Cochinchine. Et il est troublé par ce pays, mais les opérations politiques ne l'intéressent pas tellement. Alors effectivement, il ne voit pas les combats.
Mais il se les fait raconter.
Un de ses camarades, lui, dirige une compagnie de débarquement. Quand Pierre Loti accoste le soir même de la bataille a duré 3 heures. Hein, 1500 morts du côté des défenseurs de l'Annam, aucun mort du côté des troupes françaises. Il se fait raconter, il contemple les corps morts. Ça, il les a vus. Lui va les présenter vivants dans son
récit,
mais il les aura vus morts.
Alors, ce qui est intéressant dans votre texte, on a compris dans cette lecture d'ouverture qu'il est aussi un texte qui joue des artifices ou des pouvoirs de la littérature, puisque vous voulez justement, dans ce récit, mêler justement la question du récit purement historique à la question de la façon dont cette histoire se construit par l'écriture littéraire de Pierre Loti, Sylvain Bonnaire.
Oui, pour une bonne raison, c'est que le scandale repose précisément sur le fait que Pierre Loti est un écrivain, que son champ d'action, c'est la littérature, et que ça pose, en 1883, une question qu'on formule dans les termes de l'époque, c'est-à-dire les termes de l'opposition entre naturalisme et romantisme, à un moment où, en fait, on serait bien en peine de dire si Pierre Loti est du côté des naturalistes ou du côté des romantiques, même si par la suite, quelques années plus tard, il prendra des distances, il assassinera le naturalisme. Mais à ce moment-là, rien n'est très clair. Mmh. Et la question qui se pose, c'est quand Pierre Loti décrit les combats, quand il décrit la folie des combattants en des termes qui nous sont familiers aujourd'hui, parce que ce sont des termes avec lesquels on décrit aujourd'hui le paroxysme de l'activité combattante au cœur des batailles, parce qu'on a l'expérience essentiellement de la Première Guerre mondiale. En 1883, c'est quelque chose qui est extrêmement choquant. Et la question qui se pose, c'est est-ce que Pierre Loti, quand il choque les gens de cette façon-là, et c'est la question qui se pose dès 1883, est-ce qu'il est choquant parce que c'est un écrivain qui a réussi à montrer la réalité de ce qui s'est passé, alors que jusque-là, on ne la montrait pas? Ou est-ce que c'est choquant parce que Pierre Loti est un écrivain et que donc sa puissance d'imagination fait qu'il se sert de ses lectures? Un écrivain, c'est d'abord quelqu'un qui a lu avant d'être quelqu'un qui écrit, pour finalement délivrer une sorte de vérité atemporel sur la guerre et qui n'aurait rien à voir avec la réalité des combats.
Et c'est ce que vous tentez de faire en tant qu'historien, et vous réussissez à faire, Sylvain Venner, en traquant des souvenirs possibles de lecture justement de Pierre Loti. On voit souvent affleurer la figure de il est même assez central, de Flaubert dans cette guerre au loin. Et vous vous dites, il peut y avoir correspondance entre une écriture de l'un de fiction, Flaubert, l'écriture théoriquement du réel, puisque nous sommes à l'époque de la naissance de la catégorie de correspondant de guerre, d'une certaine façon. Donc on voit bien qu'il y a une correspondance possible entre les deux, et vous essayez de traquer par des expressions, par des reprises d'expressions, comment la lecture de Flaubert, mais la lecture de l'Iliade et de l'Odyssée, peuvent nourrir le marin qu'est Julien Viau, devenu écrivain sous le nom de Pierre Loti.
Oui, alors c'est difficile, parce que Loti, contrairement à beaucoup d'écrivains, est quelqu'un qui est secret sur ses lectures. On sait assez mal ce que Loti a lu. Alors on sait, pour Flaubert c'est vrai, on sait qu'il l'a lu. Alors Flaubert en 1883, c'est un problème aussi, parce qu'il vient de mourir 3 ans plus tôt, et sur la fin de sa vie, il a été embarqué dans le navire du naturalisme pour des raisons publicitaires. Flaubert qui lui-même se proclamait au contraire un vieux romantique enragé. Donc Flaubert dans ces années-là, il est au cœur en réalité de ce problème de savoir ce que représenter veut dire. Et on peut essayer de chercher effectivement chez Loti. Alors il y a un exemple que je peux donner, c'est cet exemple qui Loti décrit un marin qui essaye de percer la gorge d'un soldat de la NAM avec sa baïonnette sur la plage. Le soldat de la NAM essaye d'empêcher la baïonnette de lui crever la gorge en la serrant entre ses dents, et puis au bout d'un moment, le marin étant plus fort, le marin étant au-dessus, le soldat de la NAM ouvre la bouche, en quelque sorte ne peut plus serrer la baïonnette, et la baïonnette le transperce et le fiche sur la plage. C'est une des scènes qui pose problème
à la
censure. Or, ce qui est sûr, c'est que cette scène-là, Loti ne l'a pas vue. Et ce qui est sûr aussi, c'est que cette scène-là, elle est dans l'Iliade. Alors, pas avec une baïonnette, elle l'est avec un glaive, mais elle l'est dans l'Iliade. Et dans un de ses romans précédents, le roman d'un spahi, Loti a décrit quelque chose de très très approchant avec un couteau qui rentre progressivement dans les chairs du héros, le héros Jean. Alors, est-ce qu'il l'a vue, cette scène? Est-ce que quelqu'un l'a lui raconté? Ou est-ce qu'il s'en est souvenu et que finalement, il l'a intégré à son récit parce que c'est, de son point de vue à lui, une scène de genre nécessaire dès lors qu'on décrit une bataille.
Alors, ce qui est intéressant dans la façon dont vous approchez cette anecdote, pourrait-on dire, de la conquête de la NAM, c'est-à-dire les articles écrits par Pierre Loti qui vont scandaliser une partie de l'opinion et en particulier ses supérieurs militaires en 1883, c'est que vous en faites un objet qui permet à l'historien de réfléchir à la façon dont l'historien écrit, à la façon dont il rapporte les faits, à la façon dont on est nourri de strates, pourrait-on dire, comme dans une couche stratigraphique très lointaine, très ancienne, qui réémerge à un moment donné de l'écriture historique et parfois à l'insu même de l'auteur.
Oui, alors ce serait pas une métaphore nouvelle de dire que nos textes, les textes sur lesquels on travaille, même si ce sont des textes qui ont été publiés, sont des palimpsestes. Et le travail de l'historien, le bon travail en théorie, consisterait à gratter les couches qui se sont surimposées depuis l'époque qu'il considère, conserver les couches précédentes, oui. et à les identifier, parce que ces couches précédentes, c'est à partir de ça que les acteurs eux-mêmes avaient construit leur propre représentation du monde et les jugements qui informaient leur comportement. C'est pas une opération très simple, et le projet de ce livre, à partir de ce cas un peu exemplaire, c'était non seulement de donner à voir ça, de montrer aux lecteurs comment est-ce que les historiens doivent travailler de cette façon-là, mais aussi d'interroger le pouvoir de cette forme du langage que nous on a appris à nommer littérature et qui s'insinue en fait en contrebande dans bien des discours et qui sont pas nécessairement des discours estampillés par la librairie comme littérature, mm-hmm. pour essayer de repérer ce que la littérature fait d'une part à ces textes que nous on appelle des sources, mais ce qu'elle fait également à ces textes que nous on appelle des livres d'histoire.
Oui, ce qui est extrêmement passionnant, c'est que par exemple vous vous adressez à un endroit de votre livre au lecteur et vous lui dites, vous appelez ça des digressions parce que vous parlez d'autre chose, comme si la vie était un récit sous prétexte qu'elle respecte l'ordre chronologique, c'est-à-dire d'expliquer ce feuilletage, pourrait-on dire, ce feuilletage mémoriel qui nourrit chacune de nos visions à un instant donné de notre vie.
Oui, ce qui a dérouté aussi les éditeurs à l'époque où je présentais ce manuscrit, c'est que cette adresse au lecteur dont vous parlez, qui scande le récit, elle aurait pu, j'aurais pu faire ça différemment, c'est-à-dire que j'aurais pu faire quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui en histoire, parce que il me semble que les lecteurs de livres d'histoire sont demandeurs de ça, c'est-à-dire cette intrication du récit que l'historien raconte et du récit de sa propre enquête.
Oui, c'est donc Yvan Jablonka pour l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eue, ou le Laetitia récemment, c'est Antoine de Bec pour sa traversée des Alpes, et bien d'autres encore qui ont tenté de mêler l'un et l'autre, c'est-à-dire de se mettre à la première personne dans leur propre ouvrage.
Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais fait moi-même à propos d'un ouvrage qui me concernait, puisque je...
Une enquête sur vous-même.
Voilà, et là, le projet c'était justement de ne pas faire ça, pour essayer de sortir de cette idée selon laquelle il pouvait y avoir, dans l'objectivation de l'enquête elle-même, une mise à distance de la littérature. Or, en fait, quand on raconte une enquête, on est aussi en train de faire de la littérature. D'ailleurs, toute une partie de la littérature est fondée même sur l'enquête. C'est une partie de la littérature que j'aime beaucoup, c'est la littérature policière. Mm-hmm. Mais cette idée que l'historien... Se mettant en scène dans ce que Yvan Jablonka appelle un jeu de méthode, ce serait un moyen de tenir la littérature à distance, en quelque sorte.
C'est oublier qu'en écrivant, oui. on continue à faire de la littérature, d'une certaine façon, qu'elle nourrit totalement ce que vous êtes en train de faire.
Et autant l'assumer, c'est-à-dire l'introduction que vous avez lue, c'est aussi une façon de faire intervenir un certain nombre de problèmes historiographiques. Quand je dis l'époque était moins inquiète qu'aujourd'hui, c'est un livre malgré tout, Une guerre au loin, qui a des notes, même si elles sont reléguées en fin d'ouvrage. L'histoire était moins inquiète qu'aujourd'hui. Voilà, c'est le lecteur informé peut comprendre que derrière il y a toutes ces réflexions sur l'histoire inquiète, l'inquiétude de l'histoire dont parle Patrick Boucheron dans l'entretemps. mais on n'est pas non plus obligé de faire tomber une bibliothèque sur la tête du lecteur en introduction d'un livre.
Dès la cinquième ligne.
Dès la cinquième ligne, ou pour prendre une autre métaphore, d'avoir un videur qui vient expliquer au lecteur « Vous n'avez pas lu Patrick Boucheron, ben n'entrez pas dans ce livre. » Parce que sinon, on perd, nous, les historiens.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Et dans une série qui commence aujourd'hui, de La Fabrique de l'Histoire consacrée aux raisons des guerres, la guerre et ses raisons, nous recevons donc Sylvain Venner, auteur d'Une guerre au loin, Annam 1883, publié aux Belles Lettres, et qui vient de recevoir le prix Augustin Thierry des Rendez-vous de l'Histoire 2016. Alors, vous nous expliquez le lien avec la littérature, mais il y a aussi dans votre récit des façon de dire comment travaille l'historien. Vous dites par exemple, je pense qu'il y a moins de vérité dans les grands récits bien ordonnés que dans les petites erreurs qu'on cherche à faire oublier. C'est la question du gommage, c'est la question du typex, on disait dans ma génération, c'est la question des effacements que l'on peut faire à son texte sur ces brouillons d'ordinateur. Il y a cette question-là, c'est-à-dire quelles sont les erreurs que l'on veut faire oublier, et ça c'est important de les noter pour l'historien, Sylvain Venner.
Là, on parle de l'erreur de Pierre Loti lui-même.
Oui, bien sûr.
Oui, et puis ça rejoint un problème plus général, qui est que nous sommes là au bout de 30 ans de critique de ce qu'on appelle parfois, alors surtout dès lors qu'il s'agit d'histoire de France, de critique du grand récit, ou de ce qu'on appelle même parfois le roman national, ce qui est sans doute une expression mauvaise.
Vous aviez d'ailleurs écrit un livre auparavant sur ces questions justement d'écriture de l'histoire et de cette façon dont les historiens ont raconté les origines de la France.
Oui, mais on est aussi au moment justement où après une trentaine d'années de ce qu'on appelle parfois déconstruction du savoir historique, il faut aussi peut-être savoir de quelle façon on va le reconstruire.
C'est-à-dire, d'une certaine façon, on avait un château fort en Lego, on a totalement déconstruit le château fort, toutes les pièces du Lego sont là, comment va-t-on le reconstruire différemment ?
Voilà, c'est exactement ça. Et il faut essayer de trouver des formes d'écriture qui restituent à la fois la dimension mosaïque qu'a pris la connaissance historique depuis une trentaine d'années, mais en même temps, en essayant de faire en sorte que cette mosaïque soit aussi un paysage.
Et donc ce paysage, c'est donc l'écriture qui le permet de dresser ce paysage ?
Il est clair qu'elle est un des moyens de la faire. On ne peut plus considérer aujourd'hui, enfin, là, je suis vraiment loin d'être le seul à dire ça, mais on ne peut plus considérer aujourd'hui l'écriture de l'histoire comme un simple compte-rendu de recherche antérieure. Cette idée qu'on aurait fait nos recherches à partir de nos sources, de nos bibliographies, d'une méthode qu'on a utilisée, et que l'écriture ne serait plus que le moyen de rendre compte de résultats qui seraient déjà dans notre tête, il faut aussi admettre que l'écriture est partie prenante de la méthode elle-même.
Oui, et alors vous insistez, comme on le disait tout à l'heure, sur les émergences, comme dans une fouille archéologique, dans une couche qui n'était pas prévue, de choses plus anciennes. Vous dites par exemple qu'il faut se souvenir des récits de Solferino quand on lit, en l'occurrence, Pierre Loti en 1883 dans le Figaro. Donc Solferino, c'est Henri Dunant qui le raconte. Il faut se souvenir de la prise de Sedan racontée dans les charniers décrits par Camille Lemonnier. Mais il faut aussi se souvenir, parce qu'on est des contemporains de cette époque, des articles et des livres de Jean Hatzfeld tels qu'il décrit la guerre en ex-Yougoslavie. Et donc que tout cela, imaginaire du lecteur, imaginaire de l'écrivain, se mêle dans un grand méli-mélo dont il ne faut pas toujours d'ailleurs tenter de démêler les fils, mais au moins savoir qu'ils existent, ces fils.
Oui, il faut pas perdre de vue notre objet. Et là, l'objet, c'est la guerre, non pas dans ses causes et ses conséquences diplomatiques, mais dans ce qu'elle a de révoltant. De révoltant pour nous aujourd'hui quand on est confronté à ces problèmes-là, mais de révoltant aussi à l'époque. Et Et la forme que prend notre protestation contre la guerre, la forme qu'a pris la protestation contre la guerre, pose un problème. C'est que la déploration sur les malheurs des batailles, c'est vraiment un très ancien motif. On retrouvera ça de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Or, aujourd'hui, et c'est un problème sensible, aujourd'hui, Alep est écrasée par les bombes. Il y a des guerres dont nous sommes partie prenante, pour une part, puisque nous sommes citoyens d'un pays qui participe à ces conflits-là.
Au Mali ou ailleurs, ou en Libye ou ailleurs.
Si on s'en tient à une déploration sur les malheurs de la guerre, on risque fort de ne pas dire autre chose que ce qui a été dit depuis l'Antiquité, et donc de ne pas faire ressentir l'urgence du problème. Et là, il y a une phrase de Loti, parce que certains des lecteurs de ce livre prétendent que je n'aime pas Pierre Loti, mais il y a une phrase de Loti que je cite à deux reprises et qui me paraît aller dans le sens d'une intelligibilité de ces phénomènes. Quand Loti dit « il n'y a d'urgent que le décor ». Oui, quand Camille Lemonnier parle des charniers de Sedan, quand Henri Dunant raconte les charniers de Solferino, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que nous on pourrait raconter? Quand Jaurès, à la tribune de l'Assemblée, parle des charniers des grands massacres d'Arménie de 1894-1896, qui sont aussi dans ce livre, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que nous on pourrait dire aujourd'hui? C'est un problème. Si on écoute Jaurès en 96 à propos des charniers d'Arménie, on a l'impression qu'il utilise à peu près le même vocabulaire, qui est d'ailleurs teinté de romantisme, que Hugo, par exemple, utilisait à propos de Batak lors des massacres bulgares de 1876. Donc, qu'est-ce que cette dénonciation peut avoir d'efficace si, à un moment donné, elle est camouflée sous le langage? Des objectifs de la recherche, quand je m'étais lancé dans cette recherche-là, ce livre-là n'est qu'un aspect en réalité, c'est d'essayer de creuser cette question. Parce qu'il s'agit aussi de restituer à... je n'ai que le terme indignation en tête, mais c'est un mauvais terme. Mais à la révolte que produit le spectacle de la guerre, il faut essayer de lui restituer toute sa puissance performative. Il faut que ça débouche sur quelque chose, parce que sinon on va dire juste c'est de la bonne conscience, alors qu'en fait ça doit être de la bonne conscience qui a une action.
Et c'est d'ailleurs pour cela que Pierre Loti est surpris soi-même de ce qui lui arrive, parce que tout compte fait, c'est dans la surprise de Pierre Loti, dans le caviardage de son propre texte, donc premier texte publié sur cette bataille de Huy, ces forts de Huy en 1883, qu'on peut comprendre quelque chose de cette réception d'un côté par sa hiérarchie, un public peut-être aussi indigné, qui peut peut-être écrire au Figaro, parce qu'il décrit crûment une bataille, certes nourrie de souvenirs littéraires, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi peut-être de récits véritablement recueillis sur le terrain. Il décrit crûment cette bataille, alors que Jules Ferry explique que c'est la civilisation qu'on est en train d'exporter dans cette partie du monde.
Oui, alors ça, là, il y a deux choses. C'est que d'une part, par exemple, Loti, à un de ses correspondants, dans une lettre privée, dit exactement cette formule qui résonne à nos oreilles bien différemment de 1883. Lui, il dit « je ne suis pas un indigné ». Il dit ça, « je ne suis pas un indigné ». Effectivement, ce qui est fascinant, c'est que il n'a pas de compassion particulière pour les 1500 morts des soldats d'Annam. Il n'a pas de... Tout ça ne l'intéresse pas. C'est plutôt un homme de droite, donc son hostilité à la colonisation est liée au fait qu'il ne voit pas très bien pourquoi on va conquérir l'Annam alors qu'on devrait plutôt reprendre l'Alsace et la Lorraine. Et en même temps, il a une forme, je ne peux pas le dire autrement, une forme d'innocence au sens naïveté, qui lui permet sans doute, et c'est le mystère de ses articles, alors même qu'il n'a pas la tête très politique, comme disait André Gide, il parvient à
dire quelque chose.
Dire quelque chose et à faire entrer ses lecteurs dans le spectacle de la guerre.
Et ce texte, donc écrit dans cette année 1883, qui va être repris dans les œuvres de Pierre Loti par lui-même, il va les récupérer, ces textes, Il a continué à être édité jusqu'à aujourd'hui. Il est lisible, j'imagine, par des lecteurs de Pierlotti en allant trouver des éditions contemporaines. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a surpris, Sylvain Vonnet. C'est quel texte peut-on lire, justement, de Pierlotti sur ce récit de la NAM?
Ce qui est étonnant, c'est que les articles de Lotti ont été réédités, mais ils ont été réédités dans la forme caviardée que Lotti leur a donnée après la sanction du ministère de la Marine. C'est-à-dire qu'il a... Je ne comprends pas d'ailleurs très bien pourquoi est-ce que aujourd'hui, quand on a réédité ces textes, on les a pas réédités dans leur version originelle, qui est d'ailleurs facile à trouver, puisque la presse du 19e siècle est disponible sur Internet grâce au portail Gallica. Les articles du Figaro, on peut aller les lire depuis chez soi.
Et donc vous dites que c'est une entreprise que vous avez entamée avec ce livre-là. Vous voulez la poursuivre de quelle manière quand votre travail d'historien vous permettra de le faire, justement? Vous êtes historien, par ailleurs, c'est votre travail d'origine, sur les voyages. Vous avez travaillé aussi sur la question des récits de l'histoire de France, en particulier, je le disais, avec Origine de la France. Et vous avez beaucoup travaillé avec d'autres historiens sur les manières de raconter l'écriture historique. C'est dans ce sens-là que vous voulez aller plus loin, après cette guerre au loin, Sylvain Vonnet?
Oui, c'est-à-dire que là, j'aimerais bien réfléchir à... Parce qu'en fait, ce problème de 1883, vous savez, on peut le retrouver ailleurs et à d'autres moments. Les enfumades de 1844-1845 en Algérie, le Pélissier, Saint-Arnaud, les enfumades du Dara, ça fait scandale aussi. Les mains coupées dans le Congo des années 1900, ça fait scandale aussi. La Jamaïque de 1865, ça fait scandale. Les formes de répression de la révolte des Sipayes, ça fait scandale. L'ordre d'extermination du général von Trotta au moment de la bataille de la guerre contre les Héros et les Namas, ça fait scandale. Donc le problème, on ne peut pas dire que, comme on le dit parfois, que cette immense entreprise de conquête coloniale s'est faite avec l'assentiment des opinions. Il y a eu des scandales, donc il faut essayer de retrouver la forme de ces scandales qui est parfois malhonnête.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est-à-dire que dans le cas de Lotti, je pense qu'il y a une forme d'innocence, mais parfois les scandales sont extrêmement compliqués. Dans les années 1900, se scandaliser de la forme prise par la domination de l'entreprise du roi des Belges sur le bassin du Congo, c'est aussi une façon de critiquer le fait que c'est le roi des Belges qui possède le Congo.
Oui, ou quand on critique la façon dont sont traités les bourgs pendant la guerre des bourgs, ce sont les Français qui défendent les bourgs parce que ce sont les Britanniques qui attaquent les bourgs. Donc il y a aussi, voilà, c'est ce que vous voulez dire, dans cette malhonnêteté du rapport à la critique de ce qui est en train de se passer.
C'est ce qui s'est passé au moment de Lotti. Les Anglais, les Allemands, dans les journaux anglais, dans les journaux allemands, il y a des gros titres qui disent « les marins français se comportent comme des barbares ». Regardez, l'un d'entre eux le dit. Oui. Et derrière, il n'y a pas que de l'humanisme, vous comprenez.
Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça rentre, ce propos que vous voulez tenir avec ce livre qui donnera peut-être lieu à des suites, en l'occurrence Sylvain Vonnet, rentre dans une façon de voir, pourrait-on dire, l'histoire de notre modernité du 19e et du 20e siècle, qui est appliqué à d'autres secteurs que le secteur qui est le nôtre, militaire ou de la guerre. Je pense par exemple à ce que fait François Jarige sur les résistances au progrès, à cette technologie du progrès, à cette mise en place du progrès au 19e siècle, dès le 18e mais aussi 19e siècle, avec les grandes expositions universelles qui mettent en scène justement cette question du progrès. Vous êtes spécialiste du 19e siècle et François Jarige explique comment il y a des techno-résistants d'une certaine façon. Comment cette technologie qui est inventée, dont on dit que tout le monde l'a partagée, il y a à chaque époque des gens qui résistent à ces technologies.
Oui, sans doute on est prisonnier pour partie de cet imaginaire du 19e siècle que les gens du 19e siècle ont pour une partie d'entre eux construit et qui le représentent comme un univers de progrès. Or, évidemment, comme à toutes les époques, il y a débat, il y a discussion. Moi, dans mes travaux précédents sur le voyage, j'ai plutôt été intéressé par la façon dont le 19e siècle, dans le domaine qui m'intéressait, était un siècle de légitimation de la quête de la jouissance, mais il faut aussi le comprendre comme un univers plus traversé de forces contraires.
Et qu'est-ce que le rendu de ces contradictions, de ces débats, apporte à la connaissance de l'histoire, selon vous, Sylvain Venner?
Eh bien, cette idée, pour revenir sur cette introduction que vous avez lue tout à l'heure, qu'on a notre temps est sans doute un temps plus inquiet. Et si on veut essayer de rendre compte de cette inquiétude, il faut peut-être aussi en faire l'histoire elle-même. Nous ne sommes pas en réalité les premiers à être inquiets. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'il faut faire une histoire, par exemple, ce que je fais également par ailleurs, une histoire monde qui va inquiéter le récit national de l'histoire, en s'imaginant qu'on serait les premiers à le faire.
Et donc il faut trouver des généalogies, aller voir plus loin dans le temps si d'autres l'ont fait avant vous, si d'autres ont été inquiets avant nous, alors qu'on présente ces périodes comme des périodes quiètes.
Oui, de toute façon quand on a un problème, et aujourd'hui, l'inquiétude est un problème, la meilleure façon de commencer à résoudre un problème, c'est d'en faire l'histoire. Donc, on va essayer, et effectivement, François Jarry, très bien, je n'avais pas du tout pensé à cette analogie, mais en fait, ça me convient parfaitement. Là, on pourrait en trouver d'autres, hein, beaucoup d'historiens qui raisonnent aujourd'hui comme ça, et c'est parce que, sans doute, qu'on souhaite résoudre l'inquiétude dans laquelle on se trouve plongé par des travaux qui mettent cette inquiétude en perspective.
Mais vous comprenez combien l'entreprise que vous développez, Sylvain Venner, peut, non pas gêner, mais peut déstabiliser les assurances que l'on a, par exemple, sur le 19e siècle. J'imagine que raconter que le 19e siècle n'est pas ce siècle de croyance uniforme au progrès, de croyance uniforme à la colonisation et d'acceptation de la colonisation sans contestation, peut poser des problèmes dans le récit quotidien que l'on fait, dans les classes ou ailleurs. Quand on veut enseigner cette histoire, comment fait-on justement pour inquiéter tout le temps, d'une certaine façon, les notions qui sont des notions sur lesquelles on a construit depuis si longtemps la vision que l'on a de ce passé?
Je ne partage pas du tout le point de vue selon lequel l'histoire devrait être rassurante. Et dans les classes, au contraire, le premier enseignement, moi j'ai enseigné pendant des années en collège et en lycée, notre première tâche, enfin je me souviens très très bien de ça, c'était plutôt une formation à une éducation civique bien comprise, c'est-à-dire à l'esprit critique.
Et donc, sortir des assurances, pourrait-on dire, toutes inscrites dans le marbre.
Oui, mais ça ne veut pas dire, parce que ça aussi, c'est un malentendu que peut engendrer ce genre de livre. Ça n'est pas du tout de la dénonciation d'une hypothétique dénonciation d'un passé colonial. Ce serait absurde de voir les choses de cette façon-là.
Non, c'est plutôt un processus, c'est plutôt une façon de poser des questions et de tenter, en les posant, de mieux comprendre ce passé qu'on le faisait auparavant.
Voilà.
Merci Sylvain Venner pour ce livre très agréable, très bien écrit, on l'a compris, mais aussi qui pose beaucoup de questions au lecteur. Il est court, il se lit rapidement. Une guerre au loin, Annam, 1883, aux éditions des Belles Lettres, et qui vient de recevoir le prix Augustin Thierry, donc du livre d'histoire, des rendez-vous de l'histoire de Blois. Nous sommes au téléphone avec Jean-Yves Potel. Bonjour Jean-Yves Potel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je vous ai dérangé des potrons minés ce matin parce que nous avons appris, lorsque nous nous sommes levés très tôt ce matin, la disparition d'Andrei Vajda. Les journaux en ont parlé sur France Culture et sur les autres antennes de Radio France. Mais je voulais revenir avec vous sur la personnalité d'Andrei Vajda. Vous l'avez croisé régulièrement, vous le connaissiez bien, mais surtout peut-être au-delà de sa personnalité, sur la vision de l'histoire qu'il avait transmise, l'histoire de son pays, l'histoire de la Pologne, mais plus largement l'histoire d'une génération qui a connu l'instauration dans ce pays et dans d'autres pays voisins du communisme, sa contestation, sa discussion. Comment, eh bien, il avait construit une œuvre qui était tissée d'histoire, Jean-Yves Potel?
Oui, bien sûr, je pense quand même que je voudrais dire à quel point je suis triste ce matin, parce que j'arrête pas de voir son sourire et sa voix, et d'entendre sa voix, qu'il était toujours là, on le pensait qu'il était éternel, mais malheureusement il est mort. Et Andrzej Wajda, c'était en fait le dernier romantique polonais, mais peut-être un romantique critique, c'est-à-dire sa relation à l'histoire. Il disait lui-même qu'un artiste n'est pas simplement un créateur, mais il doit être la conscience de la nation, un prophète, une institution sociale. Il employait tous ces termes. Mais quand il parlait de l'histoire, de la critique, il avait toujours un rapport critique. Il avait toujours un rapport à l'histoire comme une question, plutôt que comme une légende, une propagande, un sens qu'il faudrait défendre à tout prix. Au contraire, il était toujours dans cette relation inquiète, conflictuelle, discutée, difficile à l'histoire de son pays et à l'histoire universelle. Et par exemple, il n'y a pas chez Vaïda une sorte d'exaltation du héros historique tel que la propagande communiste ou nationaliste aujourd'hui essaye de le faire. Il s'est fait connaître d'ailleurs par un de ses premiers grands films qui s'appelle Canal, qui racontait la fin de l'insurrection de Varsovie.
Absolument.
On voyait des insurgés qui s'échappaient par les canaux, par les égouts. Et qui étaient loin d'être des héros. Vous voyez ? Donc il y a toute cette histoire de cette relation se retrouve également dans la manière dont il prend toute une série d'événements historiques. Par exemple, si vous prenez la manière dont il parle de Solidarność, Andrzej Wajda était lié à Solidarność, était présent, Chantinaval, je l'ai croisé là-bas, il était très proche de Waleza, mais en même temps, il avait aussi une relation questionnante par rapport à ce qui se passait. Et je dirais même que pour moi, son meilleur film sur Solidarność, c'est pas L'Homme de Fer, c'est Danton. Danton, c'est un film qu'il a fait juste après, quand il est sorti de Pauline Day. Il est sorti en 83. Et dans Danton, il y a toutes les interrogations sur la révolution. Rappelez-vous, c'est un film vraiment où on entend les révolutionnaires, il y a ce conflit sur les enfants, sur la révolution qui mange les enfants, sur la manière dont tout le monde, les têtes tombent. Et en fait, quand vous voyez les assemblées constituantes de la révolution dans le Danton de Wajda, on se croirait dans les réunions de Solidarność. Je crois qu'il avait cette vision-là tout le temps.
Ça veut dire, Jean-Yves Potel, qu'on a vu Danton, souvent dans l'historiographie, dans la façon dont on voit l'histoire du cinéma, comme une sorte de prélude à ce bicentenaire de la Révolution en 1989, en disant voilà, les thèses de François Furet sont déjà en œuvre chez Wajda, et vous dites ne nous trompons pas, il avait peut-être lu François Furet, pourquoi pas, mais ça n'est pas chez Wajda un éloge de la tiédeur révolutionnaire, de la réforme plutôt que de la révolution dure. Certes, le personnage de Robespierre est dur dans ce Danton de Wajda, mais ça n'est pas cela dont il parle. Vous dites, vous, il faut le replacer dans l'histoire de la Pologne telle qu'il la raconte dans tous ses autres films.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est la Pologne le sujet principal de l'œuvre de Wajda. Tout le temps, qu'il parle de questions intimes ou qu'il parle de questions historiques, c'est la Pologne. Mais la Pologne, il essaie de la porter autour d'une réflexion universelle sur ce que l'histoire nous interroge, ce que l'histoire nous donne, ce que l'histoire nous transmet. Et alors, il a toujours cette vision. Par exemple, si vous prenez son dernier film, son dernier grand film, celui sur Waleza, qu'on a appelé en France L'Homme du Peuple, comment est-ce qu'il vous parle de Wajda, de Waleza? Il nous le met en scène avec une journaliste, et il nous le met en scène à travers un interview de... Alors, c'est pas un flashback avec une sorte d'agiographie de Waleza, c'est on nous montre ce Waleza avec toutes ses contradictions, et c'est très sympathique, mais pas toujours. Et en même temps, on nous voit derrière cela les inquiétudes de ce qui s'est passé, et on retrouve l'ambiance du chantier naval. Donc, si vous voulez, il transmet aux Polonais, d'une certaine manière, un rapport à leur histoire. Il leur donne une représentation de cette histoire qui est inquiète, et il permet à partir de là d'éviter toute vision, disons, propagandiste de l'histoire. C'est pas un auteur de films d'époque sur la Pologne à travers les âges, même s'il a fait des films d'époque, mais c'est pas ça son propos principal.
Vous dites il raconte l'histoire des Polonais. Est-ce qu'il raconte l'histoire de tous les Polonais? Vous savez que, et vous en avez écrit et vous avez écrit beaucoup autour de ces questions-là. Il y a toujours cette idée que selon laquelle il y aurait l'antisémitisme des Polonais qui de loin en loin reprendrait des chemins par l'intermédiaire des films de Wajda. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus
nos auditeurs. On a beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un très mauvais procès qui a été fait en France à Vaïda. D'ailleurs, qu'on ne fait qu'en France. Enfin, Vaïda a fait un film déjà en 61 qui s'appelle Samson. Il a fait La Terre de la Grande Promesse. Il a fait Korchak. Il a fait toute une série de films dans lesquels il relate, il met en scène cette relation difficile entre les Juifs et les Polonais non-Juifs, à différents moments de l'histoire, que ce soit à la fin du 19e siècle, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit même après la guerre. Et il le fait avec non seulement une grande honnêteté, mais il le fait en interrogeant les Polonais sur leur relation à ce passé juif de la Pologne. Et je crois que Vaïda, on l'a accusé, par exemple, on lui a reproché de ne pas avoir parlé de la Shoah dans son film sur Katyn qui se passe en mars 40, avant même que la Shoah commence. Mmh. C'est une grande erreur. C'était quelque chose qui l'a beaucoup fait souffrir. Je sais que quand il venait en France et qu'il était attaqué sur ce point-là, il avait toujours une douleur et c'était pour lui vraiment une souffrance d'être attaqué là-dessus.
Et si vous pensez que il faut maintenant, c'est souvent ce que l'on fait quand on découvre la disparition d'un personnage aussi important qu'Andrzej Wajda, qu'il faut se replonger dans son œuvre et comprendre justement son rapport à l'histoire, vous nous dites re-regardons le Danton avec l'œil que vous nous avez donné sur ce Danton, donc d'une histoire polonaise, et quoi d'autre?
Il faut regarder d'abord, moi je crois que ces premiers films des années 50 dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment un autre film qui s'appelle Cendre et Diamant, lequel on voit justement toutes les contradictions qui datent de 58, dans lequel on voit toutes les contradictions de ces résistants de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la guerre, quand le communisme s'installe en Pologne. Mais aussi, je crois que ce n'est pas ça. Bon, il a joué aussi avec les grands textes historiques, les grands textes littéraires de la Pologne, par exemple dans Les Noces, qui date de 73, où on voit une critique du nationalisme à partir d'un texte très célèbre en Pologne d'un grand écrivain qui s'appelle Wiskiński. On a d'autres textes, d'autres thèmes. Et même depuis 89, je crois que au moins trois ou quatre de ces derniers films gardent à être vus, notamment Korczak, notamment Katyn, notamment l'homme du peuple dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je crois que tout ça fait que c'est une œuvre d'ensemble. Il y a toujours aussi une dimension très intime chez Vaïda. C'est pas des grandes épopées simplement. C'est une œuvre intime à travers des personnages. Il a un art de monter ses personnages. Il avait un lien avec beaucoup d'acteurs et d'actrices très forts. Il y a d'ailleurs un livre qui a été fait en Pologne à travers une sorte de biographie de Vaïda, à travers ses acteurs et ses actrices particulièrement, qui parlent de lui. C'était un homme qui était aimé, considérablement aimé en Pologne, dans tous les milieux. Et je crois qu'il faut pas l'oublier.
Merci beaucoup Jean-Yves Potel. Je rappelle que vous êtes historien de la Pologne et de son histoire, donc complexe en particulier au XXe siècle. Et donc merci d'avoir rendu ainsi cet hommage au pied levé, pourrait-on dire, à donc Andrzej Wajda, dont on a appris la disparition ce matin. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Alexandre Dang était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Nous continuons demain notre série consacrée à la guerre et ses raisons. Et après avoir reçu ce matin Sylvain Venner pour sa guerre au loin, Annam 1883 aux belles lettres, nous recevrons demain pour son dernier livre Yann Kershaw.